Élégie 13. Sortant des bras du vieillard son époux, déjà paraît sur l'océan la blonde déesse dont le charpe empourpré nous ramène le jour. Où cours-tu, jeune aurore? Arrête, et puisse à ce prix un combat solennel être offert chaque année par des oiseaux aux mâles de même nom. Voici le moment où j'aime à rester dans les bras caressants de ma maîtresse, et à unir dans une amoureuse étreinte sa poitrine à la mienne. C'est l'heure où le sommeil est doux, où l'air est frais, et où le gosier flexible de Philomèle module ses chants si purs. Où cours-tu? Contre le vœu des amants, contre le vœu des Ebelles? Retiens de ta main vermeille tes rênes humides de rosée. Avant ton lever, le lotonnier observe mieux les astres et n'erre point à l'aventure au milieu des mers. Tu parais, et le voyageur se lève malgré ses fatigues, et sur ses armes se porte la main belliqueuse du soldat. La première, tu vois le laboureur chargé de la houe. La première, tu rappelles sous le joug les bœufs au pas lent. C'est toi qui, trompant le sommeil de l'enfance, la livre au pédagogue pour qu'elle présente sa main délicate au cou de la férule. C'est encore toi qui envoie la caution devant le tribunal où doit peser sur elle la responsabilité d'un seul mot. Tu es l'effroi de l'avocat et du juge et tu les forces tous deux à quitter leur lit pour de nouveaux procès. Toi aussi, quand les femmes pourraient trouver dans ton sommeil l'oubli de leurs travaux, tu appelles à filer la laine, leur main laborieuse. Je passerai sur tout le reste. Mais à moins d'être sans maîtresse, comment ne pardonner de contraindre les belles à se lever si matin? Combien de fois j'ai désiré que la nuit refusât de te céder la place et que les étoiles fugitives ne se voilassent point devant toi? Que de fois j'ai désiré que le vent fracassât ton char, ou que l'un de tes coursiers tombât embarrassé dans quelque nuage épais. Cruel, où cours-tu? Si tu as eu un fils dont la peau était noire, il dut cette couleur à celle du cœur de sa mère. Quoi? Si elle n'eût point autrefois brûlé d'amour pour Céphale, croit-elle que son déshonneur ne serait inconnu? Je voudrais qu'il fût permis à Titon de parler de toi. L'Olympe n'aurait jamais entendu l'histoire de si honteux amours. C'est parce que l'âge a glacé ton époux que tu fuis sa couche et que tu t'élances si matin sur ce char qu'aborde sa vieillesse. Mais si tu laissais un Céphale enlacé dans tes bras, on t'entendrait crier « Allez lentement !» coursier de la nuit. Si les années ont affaibli ton époux, faut-il que mon amour en souffre? Est-ce moi qui t'ai marié à ce vieillard? Vois combien d'heures de sommeil la lune accorde à son jeune amant, et sa beauté ne le cède point à la tienne. Le maître des dieux lui-même, pour te voir moins souvent de deux nuits, n'en fit qu'une, donnant ainsi à son amour un champ plus libre. J'avais mis fin à ses reproches, et comme si elle m'eût entendu, son front rougissait, et pourtant le jour ne se lava pas plus tard que de coutume. Élégie 14. Je répétais chaque jour, cesse de teindre tes cheveux. Tu n'as plus aujourd'hui de chevelure à teindre. Pourtant, si tu l'avais voulu, qu'aurais-tu eu de plus beau que tes cheveux? Ils descendaient jusqu'à tes genoux. Et quoi, ils étaient si fins que tu craignais de les peigner. Tel est le tissu qui couvre les serres au teint basané, ou le lin délicat que de son pied flexible déroule l'araignée, suspendue à la poutre solitaire pour y tramer sa toile déliée. Cependant, leur couleur n'était point celle de l'ébène, et ce n'était pas non plus celle de l'or. C'était seulement un mélange de tous les deux. Telle est, dans les fraîches vallées du mont Ida, la couleur du cèdre qui a perdu son écorce. Telle était aussi leur souplesse, qui se prêtait à tous les caprices de l'art sans jamais te causer la moindre douleur. Jamais l'aiguille ne les cassa, jamais non plus la dent du peigne. Ta coiffeuse eut-elle jamais rien à craindre pour elle? Bien des fois j'assistais à ta toilette, et jamais elle ne saisit l'aiguille pour lui piquer les bras. Plus d'une fois aussi, le matin, ses cheveux encore en désordre, elle resta à demi étendue sur son lit de pourpre. Son négligé même ajoutait à ses grâces, et on l'eût prise pour une bacchante de la thrace, reposant mollement sur le vert gazon ses membres fatigués. Quoique ses cheveux fussent aussi flexibles que le duvet, combien de fois, hélas, ils furent mis à la torture pour devenir des tresses arrondies et sacrées et serrées. Que de fois n'ont-ils pas enduré patiemment et le fer et le feu? Je m'écriais, c'est un crime, oui, un crime de brûler de tels cheveux. Ils s'arrangent de même avec grâce, consens à épargner ta tête. Loin de toi, cet art cruel. Tes cheveux ne méritent point d'être ainsi brûlés. Ils montrent de même la place à l'aiguille qui s'approche. Elle n'est plus, cette chevelure, dont Apollon eût été jaloux et que Bacchus n'eût point dédaigné pour son front. Elle n'est plus. Et pourtant, je ne puis la comparer qu'à celle que soutenait la main de la belle Dionée quand elle sortit toute nue de l'écume des flots. Pourquoi, s'il ne te plaisait pas, déplorer la perte de tes cheveux? Insensé, mais pourquoi ta main chagrine repousse-t-elle le miroir? Comme autrefois, les yeux n'aiment plus à l'interroger. Pour plaire encore, il te faut oublier le passé. Ce n'est point l'herbe enchantée d'une rivale qui causa leur perte. Une vieille sorcière ne les mouilla point de l'onde impure des sources démonies. Une maladie grave, que les dieux t'en préservent, ne les fit point tomber. Ce n'est pas non plus la jalousie d'une rivale qui diminua leur flot ondoyant. La seule coupable, c'est toi. Et tu es puni de ta propre faute. Oui, c'est toi-même qui sur ta tête as versé le poison. Maintenant, la Germanie t'enverra les cheveux de ses esclaves. Aux tribus d'une nation vaincue, tu emprunteras ta parure. Lorsqu'un amant louera ta chevelure, que de fois, la rougeur au front, tu diras: Ah, ce qu'il vante aujourd'hui, je l'ai acheté. Je ne sais en ce moment quel sicambre il admire en moi, et cependant, je m'en souviens. Il fut un temps où ses éloges ne s'adressaient qu'à moi. Malheureux, qu'ai-je dit? Elle a peine à retenir ses larmes. De sa main, elle cache son visage et la rougeur a coloré ses joues charmantes. Sur ses genoux, elle ne craint pas de contempler ses cheveux d'autrefois, si peu faits, hélas, pour la place qu'ils occupent aujourd'hui. Ah, que ton visage cesse de trahir le trouble de ton cœur. Le mal n'est point irréparable. Bientôt tu redeviendras belle de la première chevelure. Élégie 15 et dernière du livre 1. Pourquoi, mordante envie, m'accuser de passer mes ans à ne rien faire et appeler mes vers l'œuvre de la paresse? Pourquoi me reprocher de ne pas marcher sur les traces de mes pères et de ne point profiter de la vigueur de mon âge pour briguer le laurier poudreux du dieu de la guerre, de négliger l'étude de nos lois et leur verbiage, et de ne point prostituer mon éloquence aux luttes vénales du barreau? Les travaux dont tu parles sont périssables. Je vise, moi, à une gloire immortelle, être célébré toujours et dans tout l'univers. Voilà mon ambition. Le chantre de Méonie vivra tant que subsisteront Télénos et Lyda, tant que le rapide Simoïs roulera dans la mer le tribut de ses eaux. Il vivra aussi, le poète d'Ascra, tant que la grappe mûrira à la vigne, tant que les dons de Cérès tomberont sous le tranchant de la faucille. Le monde entier chantera toujours le fils de Baptus, quoiqu'il ait plus d'art que de génie. Le cothurne de Sophocle ne s'usera point. Aratus vivra aussi longtemps que le soleil et la lune. Tant que l'esclave sera fourbe, le père plein de dureté, l'entremetteuse perfide et la courtisane caressante, Ménandre vivra. Ennius, qui ne connut point l'art, Axius, dont les accents étaient si mâles, ont un nom qui ne redoute point le temps. Quel siècle ne connaîtra Varron et le premier esquif, et cette toison conquise par le chef ausonien? Les vers du sublime Lucrèce ne périront que le jour où périra le monde. Tityre et les moissons, aînés et ses combats, auront des lecteurs tant que Rome sera souveraine de l'univers qu'elle a conquis. Tant que l'arc et le feu seront les armes de Cupidon, on apprendra tes chants, aimable Tibulle. Gallus sera connu des peuples du couchant, Gallus sera connu des peuples de l'aurore. Partout avec Gallus sera connu sa Lycoris. Ainsi, quand le temps mine les rochers, quand il ronge la dent de la charrue laborieuse, les vers seuls échappent à la mort. Que les rois que leur conduite cèdent donc à la poésie, qu'elle lui cède les rives fortunées du Tage aux flots semés d'or. Que le vulgaire accorde son admiration à des choses méprisables, moi, je veux que le blond Apollon me verse à plein bord au long de Castelli, que ma chevelure soit couronnée du myrrhe, ennemi des frimas, et que l'amant, tourmenté par ses feux, ne cesse de lire mes vers. Vivant, on sert de pâture à l'envie. Elle ne vous quitte qu'à votre mort, et vous dormez alors, protégé par la gloire que vous avez méritée. Lors même que le bûcher funèbre m'aura consumé, je ne mourrai pas, et je me survivrai dans la meilleure partie de moi-même.